Donc Zabzalab qui est l'émission lilloise que vous pouvez retrouver sur internet. Et nous avons aussi à côté de nous trois ce qu'on appelle pas encore enfants, pas encore adolescents. Et je sais pas, peut-être j'ai une question à vous poser. Quand je vous dis le mot enfant, ça vous fait penser à quoi?
Au collège.
Au micro.
Au collège.
C'est le collège.
Au collège, on nous dit que c'est pour on y va pour apprendre et on n'a pas le droit de, on a le droit de rien faire, alors on n'apprend pas grand chose.
Je nourris des perspectives, nuances.
Donc voilà, sur une des chaînes 88.4 encore en train de sévir sur les ondes. Une émission donc sur les enfants comme on vous a dit et donc avec quelques petites blagues au passage. Donc effectivement c'est pas le monde des bisounours, pas du tout, et ça sera donc une version un peu différente de la vie des enfants.
Moi à mon bisounours je lui fais des bisous, t'es gentil, t'es tout doux, t'es géant, t'es tout fou. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou, car mon petit bisounours il adore les bisous.
Parlons de bisous, hein. Soutien à toute la bande à Grenoble qui foutent le feu dans le quartier. Soutien à tous nos amis les gitans qui savent comment on s'occupe de nos ennemis. C'est de la police. Il y a une bonne chance, ils ne peuvent pas attraper.
Donc une émission sur l'enfance. À une époque où on nous vend l'image d'un enfant fragile, pur, naïf, innocent et non perverti par la merde de cette société. Il ne s'agit donc pas de pleurnicher sur des enfants victimes, mais plutôt d'analyser et de comprendre les mécanismes sociaux par lesquels on construit les futurs travailleurs. Dans un monde organisé par l'exploitation, chacun doit intégrer assez vite la punition, la sanction, le contrôle. Chacun doit apprendre plutôt la soumission. On a tendance aujourd'hui à considérer les catégories de l'enfance ou de la jeunesse comme naturelles, comme des évidences. Elles sont enfin des constructions sociales articulées aux besoins du marché. Peu à peu, l'enfant est devenu un consommateur potentiel et, en parallèle, l'enfant roi dont il faudrait satisfaire toutes les envies. La jeunesse est devenue un concept à vendre en crème. Lorsqu'on parle d'éducation aujourd'hui, il s'agit avant tout de conformer les individus à ce qu'on attend d'eux, obéir aux règles qu'on leur pose sans qu'ils les remettent trop en cause, se préparer non pas, comme on veut nous le faire croire, à devenir autonome et critique, mais à devenir productif et utile à la société, à savoir se vendre et se satisfaire de sa condition. Alors, réveillons nos colères d'enfants.
Bonsoir, aujourd'hui sur Zabzalab, une émission consacrée à l'enfance. En une heure, on ne pourra pas être exhaustif sur le sujet, c'est donc plus précisément sur les rapports des adultes aux enfants qu'on va se pencher. On va tenter de prendre le sujet à sa racine, à sa naissance même, avec Théophile de Giraud qui questionne la procréation dans des termes virulents, parfois provocateurs, mais qui valent sans aucun doute la peine d'être entendus dans un monde où l'enfant reste la production naturelle de l'adulte. Puis on enchaînera avec une réflexion sur l'enfance menée par Catherine Baker. Dans son livre Insoumission à l'école obligatoire, elle expose à sa fille les raisons pour lesquelles elle ne l'a pas scolarisée. On s'attardera pas ici davantage sur la question de l'école, bien qu'elle soit centrale dans la vie de la plupart des enfants et dans le livre de Catherine Baker. On s'arrêtera par contre sur le chapitre « Contre l'oppression des adultes sur les enfants » pour en lire quelques extraits, avant d'aller plus loin vers la question de la gestion de l'enfance et de l'intervention de l'État en ce domaine. Mais tout de suite, pour se faire les ennemis qui nous manquent encore, voici quelques extraits de l'ouvrage de Théophile de Giraud, « L'art de guillotiner les procréateurs », que vous saurez prendre au degré qui convient.
Le plaisir de vivre est loin de faire l'unanimité. Quelle illusion par conséquent de penser que nos parents nous enfantent pour notre propre bien. Seuls les préoccupent la jouissance qu'ils pourront tirer de notre présence. Nous n'existons en vérité que pour remplir d'aise ces profiteurs qui ont l'impensable hypocrisie de se faire passer pour nos bienfaiteurs et poussent l'inhumain culot jusqu'à réclamer de nous gratitude, obéissance et piété filiale, sans compter les présents divers censés orner les incompréhensibles fêtes des mères et des pères.
Thank you.
Vous prétendez d'abord enfanter par amour, parce que vous affirmez vous aimer, toi homme et toi femme. Il vous semble heureux de couronner cet amour d'un être qui s'avancerait comme la synthèse de vous-même et comme la matérialisation des sentiments censés vous unir. Fort bien, mais avant tout, êtes-vous sûr de l'amour qui vous unit? Car tout de même, les statistiques indiquent qu'un nombre très considérable de mariages, 1 sur 2, ou d'unions, bien plus encore, certes contractés sur base de l'amour, l'est à l'illusion, se terminent par un divorce ou une rupture. Quant au mariage, qui ne se dénoue pas, ils pourrissent souvent davantage qu'ils ne persistent. Rien de plus absurde que d'enfanter prétendument par amour pour ensuite assister à la lente dislocation de votre couple par la haine ou la lassitude.
Parmi ces prétextes souvent invoqués pour justifier qu'un misérable bébé vienne s'exposer à nos désarrois, figure en bonne place l'idée de perpétuer l'espèce. Pour contrer cet argument d'un aussi bel idéalisme, on pourra faire remarquer que l'espèce humaine n'existait pas voici 1 milliard d'années et que personne ne s'en plaignait. Imaginons à présent que notre espèce disparaisse bel et bien. Qui donc demeurera-t-il pour s'en plaindre? Le dernier des hommes? Non, non, celui-là aussi aura disparu. Alors quelle voix humaine gémira-t-elle sur l'évaporation du plus féroce de tous les prédateurs? Qui regrettera que l'embranchement des primates, qui n'a encore jamais cessé de se faire la guerre et de s'entretuer depuis qu'il s'est un peu aussi peu différencié des autres singes, ait tout à coup cessé d'exister? Les animaux que nous passons notre temps à exploiter, maltraiter, torturer, emprisonner et génocider? Certes non.
Un autre argument revient souvent dans la bouche des irresponsables qui nous engendrent. Il s'agit pour eux de laisser une trace. Curieuse impulsion. Faisons tout de suite valoir que d'un point de vue éthologique, cela s'apparente trait pour trait à l'attitude qu'ont beaucoup de mammifères d'abandonner une déjection sur le sol pour marquer leur présence ou leur territoire. Le chien, qui urine au lampadaire, lui aussi laisse une trace. Cette trace, toutefois, au contraire du bébé, bénéficie du privilège de ne pas avoir à endurer les éreintantes contraintes de l'existence.
Dès que l'enfant paraît, je me casse, je peux pas sentir les pulapis. Je leur mords les joues quand ils m'embrassent, et quand ils pleurent, je leur pince les cuisses. C'est mon truc, c'est mon ça, serre le boss, bouger les gosses.
Le discours politique ose aussi vanter la reproduction à visée économique. Il faudrait fabriquer des enfants afin de garantir le financement des pensions dans les décennies à venir, afin de rajeunir la force de travail déclinante, afin d'éviter un dangereux renversement de la pyramide des âges, ou encore afin de soutenir la croissance industrielle. Puisque qui dit démographie en expansion dit bien entendu marché plus vaste, etc. Autant de discours hémétiques que l'on répercute régulièrement dans les médias dominants. On demande à un individu de naître afin de nous aider à résoudre nos problèmes économiques. Quelle pestilence, quelle sordidité! On se prend parfois à regretter qu'il y ait si peu d'hommes politiques giflés en public.
Voici une bonne nouvelle. Les déclinologues, les pessimistes, les esprits chagrins sont relayés au placard par les Françaises. 2 enfants par femme sont nés en 2006. Ah, bravo! Vous pouvez les applaudir, les femmes.
À peine aurez-vous réfuté tous ces hideux prétextes que l'on vous servira le pire, le plus spécieux, le plus malvenu de tous les arguments en faveur de la maternité, celui de la nature. Il est naturel d'engendrer et donc, comme si cela allait de soi, légitime de s'y abandonner. Hélas, la nature c'est la barbarie, l'état de guerre de tous contre tous, comme le soulignait Hobbes. Nature signifie agression et cruauté, mise au service de l'instinct de survie de chaque individu. Vivant sur l'unique mode de manger avant d'être mangé, la nature ne connaît qu'une seule loi, celle de la jungle, celle du plus fort, du plus violent ou du plus rusé, du plus apte à asseoir sa domination narcissique sur les autres vivants.
Allez les enfants, tuez vos parents! Allez les enfants! Allez les enfants, tuez vos parents!
On en voit deux, petits et grands, deux semblables, deux différents, au fond de beaucoup transparents. Certains ont des figures douces, venues au monde sans secousse. Sur leur ventre, ils joignent les pouces. D'autres lèvent les yeux sans l'air, avec un regard assez fier, pour des gens qui n'y voient pas clair. D'autres enfin, fendus entières, semblent craindre qu'on ne renverse l'océan d'alcool qui les baisse. Mais que leur bouche est un rictus, que leurs bras soient droits ou tordus. Comme ils sont mignons, quand leur frêle corps se balance dans une douce somnolence, avec un petit air régence, en contemplant leur face inerte, un jour je fais la découverte qu'ils avaient la bouche entrouverte. Fœtus de gueule, fœtus de roi, tous sont soumis à cette loi, et baillent sans savoir pourquoi. Heureux sans vie, se divertus, l'indifférence revêtue, votre cœur n'a jamais battu. Elle, vous seule, vous savez peut-être, si c'est le suprême bien-être que d'être mort avant de naître.
L'enfant est la propriété de l'adulte, c'est sa petite chose. Il peut en faire absolument ce qu'il veut, sauf le soustraire à l'emprise de l'État qui demeure le grand propriétaire. Cela va malgré tout si peu de soi que les grands ont été amenés à créer la notion d'enfance, notion à peu près vide de sens, dont l'affirmation formelle recouvre cependant le statut bien particulier que les vieux veulent donner à ces êtres qu'ils mettent à part pour leurs plaisirs ou leurs intérêts divers. Lorsque je dis que l'enfant n'existe pas, comprends-moi bien. Assurément, l'enfant est aussi mûr, aussi intelligent, aussi sensé que l'adulte, et je récuse toute différence de valeur entre les âges. Cependant, moi aussi je parle d'enfance, et je soutiens même que chaque enfant et chaque adulte ont le même droit de vivre leur esprit d'enfance, si l'on veut bien, par cette expression, signifier une vision du monde non traumatisée par l'accumulation de jours sans émerveillement. Lorsque j'utilise le mot « enfant », je parle de quelqu'un qui est dans toute sa jeunesse, et je ne l'oppose à l'adulte que dans le sens où celui-ci n'a plus cette jeunesse plénière. Mais je ne vois en rien que cette perte de la jeunesse confère aux gens plus âgés je ne sais quelle supériorité appelée pudiquement « maturité ». Si certains osent parler d'un point optimal de la forme physique ou mentale qui appartiendrait à l'espèce, force leur est de constater, s'ils tiennent au canon habituel, que ce point d'épanouissement intellectuel et physique se situerait grosso modo entre 13 et 18 ans. Mais alors, qu'on confie le monde aux adolescents ? Comique de voir avec quel acharnement on affirme, au mépris du bon sens le plus élémentaire, que l'enfant ne sait pas ce qu'il veut ni ce qu'il fait. L'enfant serait le jouet d'une illusion permanente. En un mot comme en cent, l'enfant ne peut être plus idiot que l'adulte. Non vraiment, je n'arrive pas à imaginer quel défaut propre à l'enfance frapperait les décisions enfantines de nullité. Chaque individu a le droit le plus absolu de faire de lui ce qui lui convient. Il n'y a pas plus d'enfants violents, déraisonnables, peureux, que d'adultes violents, déraisonnables, peureux. Face à ces évidences, il a bien fallu placer les enfants en situation réelle d'infériorité. Le petit de l'animal dépend de ses parents tant qu'ils le nourrissent. C'est en fait ce qui se passe chez l'homme, mais au prix d'un glissement de sens assez incroyable entre la nourriture et la nourriture. On retrouve la très exacte dépendance de l'esclave face au maître, du travailleur face au patron, avec le même échange obligatoire. Nous te nourrissons, mais dès lors tu nous appartiens. L'enfant ne possède rien. Alors que même un mendiant dispose à sa guise de l'aumône reçue, l'enfant ne possède rien en toute propriété. Il lui faut rendre compte de chaque objet mis gratuitement entre ses mains. Il ne peut ni déchirer, ni casser, ni salir, ni donner, ni refuser. Il doit l'accepter et s'en montrer satisfait. Même un jouet, sauf s'il est vieux et d'aucune valeur matérielle ni affective pour ses parents, il ne peut le donner. De chaque objet, y compris son corps, il doit rendre compte. On a corrigé les enfants tant et plus, par la fessée, le fouet, le jeûne, les corsets, la prison. On les a contraints par tous les moyens possibles à entrer dans le moule. Je ne me fais pas d'illusions et j'admets que le besoin d'approbation est un besoin humain profond. Dans le souci de plaire des enfants, entre un élément qui remplace avantageusement la crainte, comme disent les parents modernes. Les mioches ont envie, n'en doutons aucunement, de répondre à ce qu'on attend d'eux. On n'est pas toujours obligé d'user de violence pour les faire se plier aux règles. La douceur parvient au même résultat. L'essentiel restant l'acquisition, de gré ou de force, d'automatismes sociaux. Imagine un peu que les enfants n'en fassent qu'à leur tête. Où irions-nous ? La phrase que j'ai sans doute entendue le plus souvent depuis ta naissance, c'est vraisemblablement « Mais enfin, un jour ou l'autre, il faudra bien qu'elle apprenne à obéir. » L'obéissance est une vertu. On mesure les qualités de tout responsable à la faculté qu'il a de savoir se faire obéir. On parlait beaucoup de pouvoir et de la lutte à mener contre eux il y a quelques années. J'étais toujours très ulcérée de cette bagarre contre les autorités en place qui ne pouvaient que viser à les remplacer. La seule lutte profondément utile à mener, ce n'est pas contre l'autorité, mais contre la soumission. Là seulement, le pouvoir, quel qu'il soit, est perdant. Pire que tout fascisme, que toute tyrannie, son acceptation.
Fais attention, tu vas tomber. Ne mets pas ça à la bouche, c'est sale. Ne marche pas dans les flaques d'eau. Ne te salis pas, tu es tout propre. Ne le touche pas, c'est sale. Ne le touche pas, il va tomber. Ne le touche pas ou je t'attache les mains. Ne mets pas les doigts dans ton nez. Lave-toi les mains avant de manger. Ne mange pas avec les doigts. Ne cours pas si vite, tu vas tomber. C'est bien fait, le bon Dieu t'a puni. Tu es plus grand maintenant, tu devrais comprendre. Si tu n'es pas sage, maman va tomber malade. Si tu désobéis, je le dis à papa. Crie moins fort, ton père est fatigué. Ne pleure pas, maman dort. Tu dois toujours dire la vérité. Tu me fais beaucoup de peine. Tu me causes énormément de chagrin. Va au lit maintenant, c'est l'heure. Dis bonjour, merci à la dame. Embrasse ta grand-maman, ton grand-papa. Tu aimes ton papa, ta maman. Fais plaisir à papa, fais plaisir à maman. Tu aimes ta maman, dis que tu l'aimes. Tu aimes le petit Jésus. Fais Jésus, fais Jésus, fais Jésus, fais Jésus. Tu te comportes comme un bébé? Le monsieur va te gronder, qu'est-ce qu'il va dire le monsieur? Ne joue pas au ballon, c'est interdit. Ne fais pas pipi n'importe où, remonte ton pantalon, on te voit tout. Tu vois, quand tu veux, tu peux. Tu regrettes, dès que tu regrettes. Ne pleure pas, c'est bon pour les filles, c'est les fous qui pleurent. C'est pas pour toi, c'est un jeu de garçon, tu te comportes comme un garçon manqué. Tu dois toujours obéir aux grandes personnes. Si tu fais la méchante, je te téléphone à la police. Si tu n'es pas sage, je te mets à la cave. Fais ta prière, tu as fait ta prière, fais ta prière, tu as fait ta prière, fais ta prière, tu as fait ta prière. Tu dois toujours respecter tes parents, tu ne dois pas répondre à tes supérieurs. Les jeunes doivent obéir sans son vieux, tu dois prendre tes responsabilités.
La paresse est la mère de tous les vices, il faut savoir réfréner ses désirs. Un homme doit dominer ses instincts, une fille doit sauvegarder son honneur. On n'est toujours puni par où on a joui. C'est pour ton bien que je te dis ça après tout ce qu'on aurait pour toi. C'est un péché, c'est à l'index, c'est défendu, c'est décolleté, c'est pas propre, c'est pas sérieux. Tu me fais mourir, tu me rends malade, tu me fatigues, tu me fais trembler, tu me fais pleurer. Qu'est-ce que les voisins vont penser? Qu'est-ce que la famille va croire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Parle moins fort, ne dis jamais ça, parle comme il faut, tu ne rêveras jamais à rien comme ça, tu as de mauvaises fréquentations. Ne fais pas ce que tu aimes, aime ce que tu fais. Tu ne dois pas désirer ce que tu ne peux obtenir. Le paradis n'est pas sur cette terre. Contente-toi de ce que tu as.
Vous êtes toujours sur Reine des Chênes 88.4 Radio Galère. Et donc pour poursuivre cette émission sur l'enfance, on va vous passer un petit texte qui est sorti sur la Reine des Chênes le 1er octobre 2007, que vous pouvez, si vous avez envie d'écouter l'émission en entière, vous allez sur Reine des Chênes sur Internet et puis vous pourrez écouter cette émission. Et donc c'est un texte qui parle de l'école.
École, école, enfant chéri de la République, 2000 ans d'histoire te contemple, formalisée de manière militaire par des Grecs, adaptée aux formes monastiques par l'Église, puis récupérée beaucoup plus tard par les républicains modernes, l'école n'en finit plus de façonner les corps, les esprits aux besoins de l'État. Quels que soient les régimes, assez loin des déclarations humanistes sur l'émancipation par l'éducation, illustrées par Rousseau ou les penseurs des Lumières, l'école est devenue une gigantesque machine de programmation de masse. L'objectif est annoncé sans détour par Jean-Cul Ferry devant le Sénat le 5 mars 1880. Il y a deux choses dans lesquelles l'État enseignant et surveillant ne peut pas être indifférent. C'est la morale et la politique. Car en morale comme en politique, l'État est chez lui. C'est son domaine et par conséquent, c'est sa responsabilité. Il ajoutait d'ailleurs que l'État s'occupait de l'éducation pour y maintenir une certaine morale d'État, certaines doctrines d'État qui importent à sa conservation d'État. Suivront quelques préceptes de pédagogie vite adoptés par les hussards noirs de la République, selon lesquels, en dépit de toutes les dissidences, il y a à la base de notre civilisation un certain nombre de principes qui, implicitement ou explicitement, sont communs à tous. Respect de la raison de la science, des idées et des sentiments qui sont à la base de la morale démocratique. Le rôle de l'État est de dégager ces principes essentiels, de les faire enseigner dans des écoles, de veiller à ce que nulle part on ne laisse les ignorer des enfants, à ce que partout il en soit parlé avec le respect qui leur est dû. On reste donc très loin, comme on peut le voir, du mythe de l'élévation de l'âme par la libéralisation des connaissances. L'État règne en maître sur ces sujets, les citoyens lui appartiennent et les vaches sont bien gardées. C'est ce lourd héritage que porte l'école laïque et républicaine actuelle, où l'apprentissage des savoirs a toujours eu plus à voir avec le maintien de l'ordre social qu'avec la découverte du monde. L'autorité n'est pas une dérive, mais une véritable marque de fabrique. Elle s'exprime à travers la séparation par classe d'âge, le concept de lieux fermés, clos sur eux-mêmes. Une idée tirée des couvents qui se systématisera dès le XVIIIe siècle et s'appliquera également aux hôpitaux, casernes, ateliers, et bon, les prisons, on n'en parle pas. Où les enfants sont seuls face aux enseignants, les programmes et les emplois du temps à horaires fixes sont contraignants. Assurons la rentabilité du temps, machin, contrôle interrompu, ma couille. Mais l'autorité au sein de l'école, c'est aussi un rythme de vie commune qui s'inspire beaucoup du régime militaire où l'activité des écoliers est scandée par des injonctions, des coups de sonnette, d'alarme, des contraintes exercées sur des corps dès les premières années d'école. Obligation de rester assis, de se taire, d'obéir aux consignes et de réprimer son corps et ses nécessités. Interdiction de boire, de faire pipi pendant la classe, etc. En résumé, la grande réussite de l'école et sa grande fierté est bien de parvenir à enseigner à des générations en culottes courtes la soumission à l'autorité, quelle qu'elle soit. Voilà, j'ai tiré ça d'un petit magazine trouvé sur infokiosque.net, donc que vous pouvez vous procurer et lire entièrement, et qui s'appelle « Dans le ventre de l'ogre ». Voilà, pour répondre à Jean-Cul Ferry, je reprendrai un autre Jean-Cul Ferry, qui lui, donc, rentrait 2002, donc voilà, c'est l'autre, où qui disait, lui, les enfants découvrent que les contraintes de la vie collective sont les garanties de leur liberté. Ça vous laisse à présager ce qu'on peut penser de la liberté si on la voit comme une contrainte. Donc je reprends, les enfants découvrent que les contraintes de la vie collective sont garanties de leur liberté, que la sanction, lorsqu'elle intervient, ne révèle pas de l'arbitraire de l'adulte, mais de l'application de règles librement acceptées. Même t'es tout petit, va te faire enculer. L'enfant prend conscience de son appartenance à une communauté qui implique l'adhésion à des valeurs partagées, à des règles de vie, à des rapports d'échange. D'un côté, la perception de principes supérieurs que l'on ne discute pas, normalement imposés, condition de la liberté et du développement de chacun. De l'autre côté, où ils sont un peu sympas, Jean-Cul Ferry, la libre organisation d'un groupe et l'élaboration d'un contrat après discussion, négociation et compromis. Grosso modo, l'école est une prison où il est facile de s'évader, la prison est une école où il est difficile de s'évader. Le rôle des deux dans tous les cas est assez unique, où dans le monde il nous reste à choisir entre le fascisme ou la collaboration, où même les gauchistes vendent leur liberté contre la sécurité pour n'avoir finalement plus ni l'un ni l'autre. Voilà, avec Julien Drey qui est capable de dire il faut faire comprendre au cahier de banlieue qui sort des commissariats en faisant des bras d'honneur que la rigolade est finie, et Chevènement qui dit il est urgent de mettre un terme à la chienlit des sauvageons. La répression appartient pleinement à la prévention, parce que la répression est la dissuasion. Voilà. Bien que de là, contrairement à ce que certains disent, je pense que ça ne touche pas que certaines classes, parce qu'on finira tous en prison, toutes classes sociales confondues. Le formatage de nos enfants dans les écoles n'est plus contestable. Dans ces écoles obligatoires, où envoyer nos enfants à l'école ressemble plus à un abandon, à le gardiennage gratuit. C'est l'école de l'autorité, l'école de la délation, du citoyennisme, de la morale, de l'ordre. Avec ses contrats, ses règlements, ses pétitions, cette bouffe de merde qui font des parents tous les jours un maton un peu plus fort, qui l'emmène chaque matin à se réveiller, se lever, se laver les dents, aller manger, aller à l'école, c'est l'heure. Faites chaque parent un peu plus un maton qui va le rechercher à la sortie de sa semi-liberté. Voilà, dans tous les cas, quoi qu'on pourra dire, il y a un siècle, un réformateur comme Victor Hugo posait comme antagonique à l'école la prison. Aujourd'hui, la prison et l'école font très bon ménage. Éducateurs et instituteurs peuvent exercer à l'intérieur des murs. La prison est l'élément répressif nécessaire à l'existence de l'école. Et l'école est l'alibi indispensable à l'existence des prisons. Je peux même le répéter, la prison est l'élément répressif nécessaire à l'existence de l'école. Ça veut dire qu'effectivement, si tu vas pas à l'école, bah, tu finiras en prison. Et l'école est l'alibi indispensable à l'existence des prisons. Ça veut dire que si t'es en prison, bah, c'est que t'as pas été à l'école. Voilà. Donc, dans tout ça, pour te dire qu'on n'a quoi, aucune excuse, les EPM ne sont que les quartiers disciplinaires de nos écoles, celles où nous abandonnons nos enfants, comme la prison sont les quartiers disciplinaires de nos usines. Voilà, les enfants, comme tous leurs parents, n'échappent pas à la règle de la responsabilité individuelle. Si son échec scolaire, c'est qu'ils l'ont volontairement choisi, et du coup, ils n'ont plus qu'à assumer la juste sévérité de la loi à l'encontre de leurs éventuelles déviances. Il n'existe pas de droit sans punition, et pour les élèves, pas d'école citoyenne, sans prolifération de classes relais, de centres éducatifs fermés, de prisons pour mineurs. La jeunesse, symbole du souffle nouveau, normalement, du désordre constructeur, des passions créatrices, du mouvement, est désormais synonyme de danger, producteur de peur et de chaos. Simplement dit, un monde sans avenir a tout à craindre de sa jeunesse. Voilà, ne pas se soumettre, c'est pas une déviance, mais c'est vraiment un défi à essayer de vivre autrement. L'hypernormalité paraît bien plus à craindre aujourd'hui que l'hyperactivité. Et donc, dans un enfant turbulent, je vois finalement qu'un enfant est de l'enfance. Et en reprenant à quelques mots 3, 4, 2 N, 2 C, 7, HS, ça parlera à quelques-uns. C'est pas un drame, une voiture qui brûle, c'est juste un enfant qui grandit. Et à tous ceux qui aiment leurs enfants, et à tous les gens qui aiment les enfants, de leur proposer de prendre le chemin de l'école buissonnière pour espérer quitter l'autoroute des prisons à venir. Bon.
Si fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet. À cheval sur mon bidet, fais pas tes doigts dans le nez. Tu suces encore ton pouce, qu'est-ce que t'as renversé? Ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pendant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet. À cheval sur mon bidet, laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle, arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle, sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place, c'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça, à tata, pour trop de cadet, à cheval sur mon bide, tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir, ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, viens ici au coin de là, prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça, à tata, pour trop de cadet, à cheval sur mon bide, tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de toi. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas si, fais pas ça, à tata pour tout cadet. À cheval sur mon bidet, vous en faites pas les gars. Vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas si, fais pas ça, fais pas si, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là, la la la. La la la, la la la. La 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 la, la 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 la.
Le siècle des Lumières a fabriqué une image, comme celle d'un petit être en devenir, dont il faut s'occuper particulièrement. Réalité qui ne concernait déjà que les enfants de la bourgeoisie, pendant que les autres usaient leur chair dans les champs, les manufactures puis les mines. Le XXe siècle, dans ses moments de prospérité économique, a élaboré des théories et des psychologies de masse propres aux enfants, toujours conformes aux valeurs bourgeoises. Dans le grand mythe républicain de l'expansion économique, l'enfant a une place précise. Les institutions, pour le formater à la citoyenneté, pour le conditionner à la vie politique, lui ont élaboré des chartes, des droits, des représentants. Il devra donc apprendre à obéir à l'autorité, à rester à la place qui lui est assignée, à respecter les règles et les lois, à accepter d'avoir des terrains de jeu restreints, la télé comme échappatoire, la vie rythmée par des horaires fixes, en deux mots, apprendre qu'on n'est pas là pour rigoler. Il devra, dans un second temps, accepter les valeurs du mode de production, du travail salarié, de la consommation, la flexibilité, la polyvalence, la précarité, se mouler et s'identifier au fur et à mesure des besoins de l'entreprise.
Et justement, cette idée s'illustre à travers les différentes évolutions de la gestion des mineurs par les institutions. Au cours du siècle dernier, sur la question de la gestion des mineurs, le discours officiel se modifie régulièrement et les dispositifs se renouvellent sans cesse. L'État présente successivement une alternance de mesures éducatives et répressives, comme si elles n'étaient pas les deux aspects indissociables d'un meilleur contrôle des populations, et notamment des mineurs. Le pouvoir semble chercher quelle sera la combinaison idéale de ces deux volets. Dans les années 30, l'opinion publique considère l'enfant comme une victime. Les prises en charge individuelles en lien avec la psychiatrie apparaissent. Dans les années 70-80, on crée les centres éducatifs fermés, qui ne sont plus officiellement présentés comme des prisons, même s'ils ont toujours des murs. Parallèlement, les gestionnaires de l'enfance se tournent vers l'action éducative en milieu ouvert, centrée sur la psychologisation. Dès 1990, le discours étatique est à nouveau celui de la répression. C'est récemment, avec les EPM, que le terme « prison » est associé pour la première fois à la gestion des mineurs, dans un processus de banalisation. Ces derniers temps, les trois leviers de normalisation se coordonnent de mieux en mieux. L'éducatif, le médical et le carcéral. Les courants de la psychologie issus du siècle dernier, notamment les comportementalistes, qui identifient les caractères innés dans la déviance et la délinquance, bref, la délinquance comme maladie, reviennent en force. C'est là une tentative de faire passer la transgression des règles établies par le pouvoir comme étant intimement liée à la question de la santé mentale des êtres. Ainsi, toute attitude hors du cadre établi ne renverrait pas à une remise en cause du système, mais à une inadaptation personnelle relevant du domaine psychiatrique.
Quand on grandissait chez nous, on prenait l'habitude d'être emmerdé par les flics. Ils nous suivaient en bagnole, puis se barraient. Ou bien ils nous arrêtaient sans raison et nous interrogeaient. Surtout avec une caisse comme la mienne, une 5 litres avec des Dytots, on était bons à tous les coups.
Ils aiment nous contrôler. On traîne tard le soir, y'a plus d'espoir. Quand ils arrivent, on s'évade par le toit. On voit des coups aux cheveux courts et aux sécheurs de cour. Balance leurs douilles parce qu'on est fou et qu'on s'en bat les couilles. Ils aiment casser les portes et insulter les mômes. Taper les pauvres, oublie les points, répond avec les mots. Les ulysses drames, là où le bonheur apparaît partiellement. Trop les flics et les juges, bientôt je vais porter plainte pour harcèlement. Dans leur pays, c'est la douleur, alors depuis, laisse-moi leur dire deux mots. Maintenant, tu pars en tôle à cause d'un style ou d'une couleur de peau. C'est la misère, des keufs bourrés veulent jouer aux impulsifs. Des coups de fusil, des contrôles de pas plus qu'abusif. Tout leur déplaît, ma façon de vivre, ma ville m'aura possible. Dans leur putain de loi, bon argot pour flinguer. Mais comment ça, la police traque tous les squatteurs de hall, enferme tous les leurs deals et sans dehors tous les violeurs de mômes. Les keufs tabassent et c'est tarbat t'empêchent de t'évader. Leurs lois sont titesses, mais ces pétasses n'y sont jamais allées. Merde. Comment les croire, ils font semblant, refusent ma façon de voir. Yeah. Comment vous le dire, mes votes sont blancs parce que mes potes sont noirs. Alors j'avance seul dans mon coin en rallumant mon joint. Quand on rompu, y'a des fourgons blindés à chaque rond-point. Les sous-lits drames, là où le bonheur apparaît partiellement. Entre les flics et le juge, bientôt je vais porter plainte pour harcèlement. Ils aiment nous contrôler. Parce qu'on traîne tard le soir, y'a plus d'espoir. Quand ils arrivent, on s'évade par le toit. On voit des coups aux cheveux courts et aux sécheurs de cour. Balance leurs douilles parce qu'on est fou et qu'on s'en bat les couilles. Ils aiment casser les portes et insulter les mômes. Taper les pauvres, oublie les points, répond avec les mots. Les ulysses drames, là où le bonheur apparaît partiellement. Entre les flics et les juges, bientôt je vais porter plainte pour harcèlement. Un flic m'a dit, tu feras moins le fou quand tu mangeras mon gun. Peut-être, mais pour l'instant, dégage ta gueule, laisse-moi sortir mon scud. Je sais ce que c'est, ce sera le mitard si t'as des origines. Ce sera des pigeons en tôle. Parce que c'est
veulent te mettre au régime. Je sais de quoi je parle parce que mes gars sont tous des galériens enfants. Enfant, d'une mère française et d'un père algérien. Okay. Maintenant tu le sais, alors avance ou bien fais comme tu peux. En 2003, la guerre, c'est les baguilles contre les costumes bleus. Nos mères ont peur et moi j'en pleure des lyrics attristés. Moi dans mon ciel, il pleut des balles, mais j'ai su m'abriter. Juste un morceau pour qu'ils périssent et pourrissent dans leur coin. C'est vrai, j'en suis navré, eux ils m'aiment pas, moi je les aime encore moins. Sont 4 étoiles pour que les stars dévient ma trajectoire. Ici, je suis pas chez moi, maintenant je le sais, j'apprends à marcher droit. Au bord du gouffre, le son étouffe et les jours sont trop longs. Les bondés veulent jouer au con, mais dans la rue, c'est nous qui contrôlons. Ils aiment nous contrôler. Parce qu'on traîne tard le soir, y'a plus d'espoir. Quand ils arrivent, on s'évade par le toit. On voit des coups aux cheveux courts et aux sécheurs de cour. Balance leurs douilles parce qu'on est fous et qu'on s'en bat les couilles. Ils aiment casser les portes et insulter les mômes. Taper les pauvres, oublie les points, réponds avec les mots. Les Ulysse drame, là où le bonheur apparaît partiellement. Trop les flics et les juges, bientôt je vais porter plainte pour harcèlement. Ils aiment nous contrôler. Parce qu'on traîne tard le soir, y'a plus d'espoir. Quand ils arrivent, on s'évade par le toit. On voit des coups aux cheveux courts et aux sécheurs de cour. Balance leurs douilles parce qu'on est fous et qu'on s'en bat les couilles. Ils aiment casser les portes et insulter les mômes. Taper les pauvres, oublie les points, réponds avec les mots. Les Ulysse drame, là où le bonheur apparaît partiellement. Trop les flics et les juges, bientôt je vais porter plainte pour harcèlement.
C'était Cynique, tard le soir. Vous êtes toujours sur ND Chaîne 88.4, Radio Galère. Et donc, pour continuer sur la gestion de l'enfance par les administrations et par l'État, on va vous faire écouter la deuxième partie de l'émission de Zabzalap.
Ring a ring of roses, a pocket full of poses. Tissue, we all fall down.
Bye-bye.
we all fall down.
On continue cette émission sur l'enfance en écoutant quelques extraits sonores et quelques textes sur sa gestion et sa prise en charge par l'État et ses institutions.
Des milliers d'enfants dans ces bâtiments, des enfants qui seront la population de demain et qui vivent en circuit fermé, de l'école à la maison, des gosses qui jouent sur le trottoir et qui deviennent un problème. Le problème débattu par les parents et les éducateurs au cours d'un colloque sur l'enfant dans la cité qui les a réunis il y a quelque temps de cela à Rennes. Monsieur Verprat, ces problèmes, quels sont-ils?
Des problèmes énormes, des problèmes d'espace, des problèmes d'école, des problèmes de liaison avec les parents. Tout le monde est un peu, je ne dirais pas désarçonné, mais malgré tout inquiet devant cette masse d'enfants qu'il faut bien intégrer progressivement à la cité.
Il y a donc ces enfants à l'école, ces enfants chez eux, et puis les mêmes enfants au scoutisme. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il leur reste encore du temps suffisamment pour pouvoir s'amuser et est-ce
oui.
qu'ils ont les moyens
c'est,
de le faire?
C'est bien sûr, c'est là notre problème. En fait, ce serait de pouvoir les occuper pendant tout le temps qu'ils sont libres, tout le temps qu'ils sont libres, pendant qu'ils ne sont pas ni à l'école ni à la famille. Mais ce temps est long. Et en réalité, nous n'avons pas les possibilités, nous n'avons pas les moyens de leur offrir de vacances perpétuelles, des plaisirs, des loisirs perpétuels.
Qu'entendez-vous par les moyens?
Mais les moyens, il y a les moyens matériels et puis il y a les moyens en cadre. Il faut des chefs, il faut des animateurs.
Monsieur Elliott, vous, c'est d'adolescents que vous vous occupez, mais est-ce que le fait de vous trouver directement avec des adolescents ne vous pose pas également des problèmes? Ces adolescents sont-ils préparés à la vie en société?
Pour résumer, je crois que dans une ville comme Rennes, on a fait énormément de choses pour l'enfance, on s'est intéressé à énormément de problèmes. Seulement notre inquiétude à nous, associations, à nous mouvements, c'est de nous rendre compte qu'en définitive, lorsque nous nous promenons dans les rues de Rennes, nous nous apercevons qu'un certain nombre d'enfants restent à jouer dans les couloirs, restent à jouer sur les terrains vagues, restent à jouer dans les halls d'immeubles. Et les problèmes que nous nous posons à partir de ce moment-là, quels sont les problèmes qui les rebutent alors qu'un certain nombre d'associations travaillent sur les quartiers, alors qu'un certain nombre de mouvements travaillent dans cette ville de Rennes pour l'enfance? Quels sont les problèmes qui empêchent les enfants de participer à ce type d'organisation?
Il y a deux points sur lesquels tout le monde peut être d'accord. Le premier, c'est que tous les scientifiques, tous les médecins le disent, plus tôt on intervient, plus mieux on a de chances d'éviter le drame d'un enfant qui évolue vers la délinquance. Intervenir le plus tôt possible est la condition nécessaire pour l'efficacité.
Ainsi, pour avoir répondu à son instituteur, Kevin a été fiché comme pré-syndicaliste. Pour avoir jeté son yaourt sur sa nounou, Sylvian a été fiché comme pré-entarteur. Enfin, pour avoir pendant 9 mois mis régulièrement des coups de pied dans le ventre de sa mère, Johan a été fiché dès sa naissance comme pré-hooligan.
La France est-elle à l'abri des dérives américaines? La psychiatrie pourrait-elle être utilisée chez nous comme un moyen de contrôler les enfants? En 2005, dans son rapport sur les troubles de conduite chez l'enfant et l'adolescent, l'INSERM, Institut National de la Santé, entérine certaines des pratiques américaines. Le dépistage systématique des enfants à partir de 3 ans, l'utilisation de questionnaires simples pour repérer les troubles, l'établissement d'un bilan annuel par le médecin scolaire. Pour définir les troubles de conduite, l'INSERM s'appuie sur les classifications cliniques anglo-saxonnes qui recensent 340 comportements. Si on applique à la lettre ces classifications, un enfant sur 8 souffrirait d'un trouble mental. Parmi ces troubles, on trouve l'hyperactivité, mais aussi les incivilités à l'école ou l'absentéisme.
On dit, ces enfants ne sont pas gérables. Et on dit, comment pourrait-on les rendre gérables? Et c'est la seule question qu'on se pose. Et donc, à ce moment-là, notre regard a été façonné autour de cette angoisse de pouvoir gérer les gens. Et évidemment, le dernier rapport INSERM qui parle des troubles de conduite chez l'enfant est obsédé par ça. C'est-à-dire est obsédé par gérable, ingérable. Et ce rapport se dit, tout ce qui est ingérable chez les adolescents, chez les jeunes, ces jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, c'est dit tel quel, ces jeunes qui brûlent les voitures, ces émeutes, tout ce qui est ingérable, peut-être que nous, la psychiatrie, nous pourrions nous en occuper. Et peut-être qu'on pourrait les prendre en charge. Et évidemment, les hommes politiques sont ravis, parce que c'est une patate chaude pour eux.
Le rapport INSERM suscite une levée de boucliers chez les professionnels de la petite enfance. Une pétition intitulée « Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans » recueille très vite près de 200 000 signatures.
Je crains beaucoup que ça n'ouvre quand même un boulevard à l'extension des autorisations de mise sur le marché des psychotropes pour les enfants de moins de 4 ans, en tout cas de moins de 6 ans. En ce moment, on reste assez raisonnable en France avec tout ça, ça a été redit. Là, je crains qu'il y ait une exploitation possible quand même par les laboratoires pharmaceutiques. Le risque politique, on le voit, c'est de s'appuyer de mauvaise manière, je crois, sur ce rapport INSERM pour conforter une entreprise politique qui, de toute façon, a été lancée avant. Je le rappelle.
Les recommandations de l'INSERM donnent une caution scientifique au projet de loi sur la prévention de la délinquance. Le ministre de l'Intérieur évoque l'idée d'un carnet de comportement qui suivrait chaque enfant pendant toute sa scolarité, au risque de le stigmatiser toute sa vie. De cette façon, le gouvernement espère pouvoir repérer les futurs délinquants dès leur plus jeune âge. Aux États-Unis, 13% des enfants prennent des psychotropes pour rectifier des comportements dits asociaux. Certains médecins tentent de résister aux dérives de la psychiatrie dans leur pays. C'est le cas de John Breeding.
Le mode de pensée derrière notre système de soins, ça s'appelle la psychiatrie biologique. Et c'est assez simple. Ça repose sur quelques suppositions. La première, c'est que l'inadaptation sociale relève de la santé mentale. Ça ne relève pas de problèmes familiaux ou sociaux ou éducatifs, ou encore de la nutrition ou de problèmes de sommeil ou de toute autre possibilité. Non, il n'y a qu'une cause, la maladie mentale. La seconde supposition, c'est que la maladie mentale a toujours une origine biologique ou génétique. C'est tout simple. Donc, maladie mentale d'origine biologique ou génétique, par conséquent, traitement biologique ou pharmacologique, en clair, des médicaments.
Je ne veux pas gaver mon fils de médicaments.
Oui, tous les parents disent ça.
Puis ils voient ce qu'on obtient.
Voici de vulgaires cobayes qui courent comme des idiots. Maintenant, un peu de focusine.
Oh, c'est stupéfiant et charmant.
Regardez.
Ils deviennent vos esclaves.
Oui, mais il ne s'agit pas d'esclavage. Il s'agit d'aider des enfants à se concentrer. Ces pilules réduisent les pitreries en classe de 40%.
Et l'impertinence de 60%.
Il n'y a rien de plus efficace, à part le sport.
Quand enfant devient trop ridicule, on parle des adolescents. La loi dit mineur. Des mots pour créer une séparation en fonction de l'âge. Des mots qui masquent et justifient l'oppression. Des millions de jeunes de 0 à 18 ans mènent une vie d'objet. Ils appartiennent à leurs parents, à l'État. Ils obéissent aux profs, aux juges, aux médecins, aux flics. La loi, l'autorité adulte parle d'eux et pour eux.
Pour fabriquer des adultes soumis, il faut réprimer dès l'enfance la vie, l'autonomie, l'amour qui agite les petits des hommes.
Les enfants sont des prisonniers de guerre. C'est la guerre tous les jours pour sauver sa peau, survivre un peu, aimer un peu, reprendre un peu de temps à l'ennemi. Ça n'est pas une guerre pour de rire. Des milliers d'enfants sont tués chaque année par leurs parents, des milliers d'autres sont frappés, internés, contrôlés. Il y a des enfants dans les prisons, il y en a dans les hôpitaux psychiatriques, ils y meurent aussi.
Scolarité obligatoire, amour défendu, correspondance contrôlée, circulation interdite, domicile obligatoire, lecture censurée, idées interdites, tout ça, c'est assez pour faire qualifier de totalitaire n'importe quel régime politique. Pour les enfants, les adultes disent éducation, protection et même amour. C'est là que les cartes sont brouillées. Les pires ennemis des enfants sont souvent ceux qui, paraît-il, les aiment le mieux. L'amour naturel entre parents et enfants est un mythe qui permet aux adultes d'endormir la méfiance des opprimés. C'est peut-être le plus gros mensonge, ça n'est pas le seul.
Les adultes en inventent sans cesse pour maquiller ou justifier leur pouvoir, car les idées sont des armes. Il peut s'avérer plus difficile, mais plus important de résister à un mensonge qu'à une claque.
Depuis juin 2007, le taux de réponse pénale aux actes de délinquance des mineurs a beaucoup progressé. Le nombre de présentations immédiates de mineurs au juge est en forte augmentation. Actuellement, le garde des Sceaux travaille à la refonte de l'ordonnance de 1945 relative à la justice pour créer un code de justice pénale des mineurs. 7 établissements pénitentiaires pour mineurs sont aujourd'hui en service. À la fin de l'année, 45 centres éducatifs fermés seront en fonctionnement, dont 5 centres éducatifs pédopsychologiques qui totaliseront près de 500 places. Et nous avons prévu en 2010 2 ouvertures supplémentaires de centres éducatifs fermés.
Ils sont fous. Ils veulent,
ils veulent faire de moi quelque chose que je serai jamais, quoi, tu vois. En fait, toute ma personnalité, elle change à cause d'eux, tu vois. Je suis plus moi-même. Et j'ai l'impression, même quand je sors sans eux maintenant, qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient, tu vois. J'ai peur, voilà. J'ai l'impression d'avoir peur de tout, j'ai peur de la vie. Par exemple, j'allais dans le magasin, j'ai toujours l'envie de voler, hein. Même si j'ai peur de le faire, j'ai toujours l'envie.
Donc en fait, ce qui a changé, c'est que maintenant, on t'a foutu la peur.
Voilà, le mot exact. Le mot exact. Et en plus de la peur, hein, et le doute aussi. Tu vois, je ne sais pas t'expliquer. Les deux mots-là. Voilà. Quand tu ressors du grand mat, t'es complètement conne. Oui, si, c'est vrai. Si tu ressors d'ici en ayant écouté tout ce qu'ils veulent faire de toi, tu ressors conne, saisie. T'es dans la rue, tu marches, t'as peur de tout. Ouais. Je te jure, ça marche comme ça.
Tomato ketchup. Les enfants sont roi et ils font la loi. Tour du côté, tour du coton. C'est l'année zéro de la rébellion. L'heure de la révolte a enfin sonné. L'état d'enfant roi est partout proclamé.
Pour les profs dictateurs, la prison à vie pour les profs matraqueurs, la paix capitale pour surveiller.
6 tomes, la police recommande à quiconque apercevrait cet enfant de 8 ans de le tuer immédiatement et de brûler sa dépouille. C'est tout pour l'instant.
Et maintenant.
Et donc, l'émission approche à sa fin, mais avant de vous quitter, peut-être que les trois lascars qu'on a là, qu'on a la chance d'avoir avec nous, et ben, on avait peut-être deux, trois questions à vous poser. Qu'est-ce qui vous fait le plus chier ?
Le collège, le collège, le collège, le collège, les interdictions, les interdictions, les interdictions.
Alors, pour moi, ce serait les profs et la cantine.
Et surtout les courgettes.
Et pourquoi le collège ?
Parce qu'on y passe là. En fait, on y passe trois quarts du temps et c'est un peu le seul truc où on fait des trucs.
Non seulement ils nous pourrissent notre journée, mais en plus ils nous pourrissent notre soir avec les devoirs.
Et le matin, on doit se lever hyper tôt et pour aller au collège.
Et le collège, toujours le collège. Et les vacances, mais bon.
Et le week-end, on fait nos devoirs parce qu'ils nous en donnent plus pour le collège.
Et les vacances aussi.
Après, non, les vacances avec des devoirs, j'appelle pas ça des vacances, à part les grandes vacances d'été avec 2 mois de vacances, mais les vacances de 2 semaines, avec tout ce qu'ils nous donnent.
Et s'il n'y avait pas le collège, vous feriez quoi ?
Je préfère m'ennuyer qu'aller au collège.
Bah, on irait voir les copains où ils habitent. Bah, on irait faire plein d'activités, jouer au foot, tout ce qu'on peut pas faire pendant le collège.
Mais pourtant, au collège, vous rencontrez des potes, non ? Vous faites des potes.
S'il n'y avait pas le collège, on aurait beaucoup plus de moyens de rencontrer nos potes. Enfin, au collège, on rencontre nos potes parce que c'est là qu'on va, mais s'il n'y avait pas le collège, on n'irait pas au collège, donc du coup, on rencontrait d'autres gens.
Et en même temps, le collège, nos amis, on les voit clair et crée, mais bon, le peu de temps qu'on les voit, et si l'école n'existait pas et qu'on s'était déjà fait ses potes, et bon, le soir, au lieu de faire ses devants, on pourrait aller les voir. Ce serait plus simple.
Il y a autre chose que vous aimeriez dire ? Bon, bah, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.